Vous êtes connu pour vos travaux de sociologie religieuse, sociologie historique, et vous avez étudié particulièrement deux crises qui ont marqué l'Église catholique, la crise des prêtres ouvriers et une crise qu'on appelait la crise moderniste. Et je vous repose carrément la question, est-ce que l'Église est contre la modernité? Est-ce que l'Église est une institution rétrograde?
Eh bien déjà là, si je puis dire, vous venez d'employer le terme modernité en deux sens différents.
Ah bon, il y a plusieurs sens.
Eh oui. Car le mot modernité, c'est d'abord un mot très relatif, car qu'est-ce que la modernité? La modernité ne cesse de se succéder, mais surtout la modernité est un terme qui n'a cessé de se charger d'idéologie. Hein? Et alors, tout le problème est de savoir qui est contre quoi et quoi est contre qui. Alors, l'Église est-elle contre la modernité et l'Église est-elle contre la société moderne? L'Église n'est pas contre la modernité. Vous savez, ce terme de modernité, de moderne, plus exactement ce terme de moderne est très ancien.
La querelle des anciens et des modernes, apprenait-on quand nous faisions
des
études classiques?
Oui, mais même à cette époque-là, on oubliait de vous dire qu'elle existait déjà au temps du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y avait déjà une querelle entre les antiqui et les moderni. Hein? C'est donc, on pourrait dire, une querelle qui traverse les siècles. Hein? La véritable nouveauté, c'est ce que nous avons dit dans un précédent entretien, que cette société moderne s'identifie à une société d'inspiration éclairée, d'une inspiration libérale, c'est-à-dire d'une société fondée sur la raison, hein, fondée sur l'élimination de tout ce qui est transcendance, révélation. Et par conséquent, par cette modernité, l'Église se sentait atteinte au cœur même de son message et de son être. Hein? Et par conséquent, j'allais dire, c'était la modernité qui était contre l'Église, autant que l'Église a été contre la modernité.
Oui. Mais cette Église qui est contre un certain monde qui émerge,
oui,
en se posant contre elle, affirme un certain nombre de choses.
Oui.
Des choses qui concernent le rapport de l'homme à la vérité, je reprends un axe de votre pensée, et des choses concernant le rapport de l'homme à la justice.
Oui.
Quel est le rapport de l'homme à la vérité que l'on trouve dans la pensée moderne, libérale? Qu'est-ce qu'on trouve en opposition dans l'Église? Même chose pour la justice. Est-ce que vous pourriez répondre à ça rapidement pour notre auditeur?
Voyez, je dirais, tout au long du 19e siècle, je vois se développer une critique, des critiques multiples de la société moderne, ou si vous voulez, des critiques de la modernité. Je dirais que l'un des grands ensembles critiques de cette modernité, c'est finalement tout ce qui s'est abrité sous le nom de socialisme, dès le début du 19e siècle, si vous voulez, et ensuite sous le nom de marxisme. Qu'est-ce que le marxisme? Qu'est-ce que le socialisme? Une critique de la société libérale, moderne, capitaliste. Hein? Et je pense qu'à côté, il y a eu également une critique catholique de cette modernité. Alors, d'autre part, quand on prend tous les grands artistes du 19e siècle, qui nous apparaissent comme des artistes modernes, des écrivains modernes, on s'aperçoit qu'ils se montrent presque tous très hostile à ce qu'eux-mêmes appellent la modernité. Mmh. Si bien que le terme de modernité est un terme effroyablement équivoque, qui permet à la fois toutes les critiques, hein, et en même temps
tous les raisonnements aussi.
Exactement. Oui. Voyez. Alors la difficulté, c'est de mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Et étudiant le discours de l'Église catholique, j'ai été souvent frappé de voir que de lui trouver deux formes. Hein. Nous sommes contre la modernité, parce que c'est une fausse modernité. Hein? Et en même temps, nous sommes pour la modernité, à condition que ce soit la modernité catholique, la nôtre.
Ah oui.
Voyez-vous? Autrement dit, l'Église catholique peut toujours tenir le double discours, selon qu'elle parle le langage libéral, hein? Le langage du progrès, de la raison, enfin de... Bon, alors, elle dit, Non. Hein? Mais elle peut tenir son propre langage et proposer sa propre conception de la modernité en disant « Mais nous sommes pour la vraie science, nous sommes pour le vrai progrès, nous sommes pour la vraie raison, pour la vraie liberté, pour la vraie justice. Mmh. » Hein? Alors, vous me direz que dans ce discours, à ce niveau de généralité, peuvent s'abriter bien des malentendus. Enfin, mais quand on regarde la situation concrète, on s'aperçoit que cette critique et cette opposition étaient loin d'être sans fondement. Alors, l'exemple que je vais prendre, c'est le fameux document que connaissent tous les historiens, c'est le syllabus du pape Pie IX en 1864, disant que l'Église ne peut ni transiger, ni se réconcilier avec le progrès, avec la société moderne. Hein? Or, aujourd'hui...
C'est bien, en tout cas, ce que pensent aussi un certain nombre de gens qu'on trouve dans la rue.
Mais exactement. Mais alors, aujourd'hui, quand nous voyons les critiques faites par les écologistes, quand nous voyons les critiques faites de toutes parts contre cette modernité qui nous conduit à la catastrophe et à la ruine, contre cette science qui développe ces menaces nucléaires et la destruction de l'humanité, on se dit, mais le pape Pie IX était en avance d'un siècle sur nous.
Par certains côtés.
Par certains côtés. Alors, oui. Vous voyez, c'est pour montrer que ce discours critique sur la modernité est finalement beaucoup moins simple qu'il ne peut le paraître.
Mais est-ce qu'au fond, le problème n'est pas le suivant, enfin, problème beaucoup plus large,
oui.
C'est que l'Église prétend avoir une certaine culture, avoir développé une certaine culture, et qu'elle propose cette culture aux hommes d'une façon, j'emploie un de vos mots presque,
oui.
Intransigeante.
Oui, mais je crois que l'intransigeance était de part et d'autre. C'est-à-dire que, à cette époque, le socialisme s'est montré d'une étonnante intransigeance et le libéralisme s'est montré d'une égale intransigeance. Autrement dit, que ce soit le catholicisme, que ce soit le libéralisme, que ce soit le socialisme, je constate de l'intransigeance partout.
Donc l'intransigeantisme,
oui.
Dont vous parlez à
oui.
propos de l'Église, n'est pas le propre de l'Église
catholique. N'est pas le monopole de l'Église catholique. Mmh. C'est en somme un fait de société où les affrontements sont extrêmement violents.
Oui. Mais est-ce que c'est justement...
Et radicaux.
Oui. Mais on a l'impression que les affrontements que nous connaissons
oui.
actuellement dans la société catholique ne sont justement beaucoup plus atténués que ceux qu'on a pu connaître au début du siècle. On n'a pas ces conflits, ces amitiés qui se brisent, ces dénonciations, ces recours à Rome, etc.
Vous savez, j'ai le sentiment que... Enfin, c'est un jugement personnel, mais que depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis Hiroshima... Nagasaki, la bombe nucléaire, nous sommes entrés dans une société de négociation. C'est-à-dire que nous savons bien que nous avons des idéologies incompatibles, et cependant que nous sommes condamnés à vivre ensemble. C'est ainsi que peut vivre l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Qu'est-ce que l'ONU? Sinon précisément ce carrefour des contradictions où depuis 40 ans, on parle, parce que pendant qu'on parle, on ne se bat pas, on ne s'entretue pas. Hein? Et donc, je dirais que les mœurs internationales en sont venues à changer. Et que même le Saint-Siège, même la papauté, disons, se sont adaptés à cette situation. Et les anathèmes, aujourd'hui, on sait très bien que c'est de la rhétorique, que le problème n'est plus là.
Vous avez parlé de Nagasaki, donc de cette imminence,
oui.
d'un danger qui plane sur toute l'humanité.
Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre dimension qui peut avoir ouvert la problématique? Savoir que le monde n'a plus comme centre, l'Occident, le bassin méditerranéen, avec ses annexes que peuvent être l'Amérique du Nord, etc. Et qu'on arrive aujourd'hui dans une société où le monde occidental, n'ayant plus le privilège qu'il a pu avoir de cette prédominance, etc., d'imposer un modèle aussi, n'est-ce pas, qu'on est obligé d'envisager d'autres modèles. Et que l'Église, par conséquent, est obligée de penser qu'elle doit, comme on dit, s'acculturer, rencontrer d'autres cultures, et donc que son modèle lui-même est remis en question.
Je dirais que ça, c'est déjà un phénomène second, mais qu'il y a eu auparavant un premier phénomène, c'est-à-dire que nous sommes entrés dans un monde fini. N'oubliez pas que tout le XIXe siècle a été un siècle d'expansion coloniale, où les grandes puissances pouvaient se partager d'immenses territoires, pouvaient se partager des ressources, pouvaient se partager... Bon. Et aujourd'hui, hein, nous savons que ce monde est définitivement partagé, et même qu'il a fallu renoncer au partage coloniaux. Hein? Nous sommes donc entrés dans un monde fini où chacun est condamné à tenir sa place. Et regardez comment on pourrait penser qu'il y a l'espace, comment il y a les fonds sous-marins, et comment, au contraire, une sorte de consensus international se fait pour renoncé à transposer ce modèle de l'expansion. Hein? Ce qui veut dire que l'on accepte finalement d'introduire le modèle de la négociation.
La négociation vous apparaît donc comme une composante essentielle, enfin très importante, de la culture actuelle.
Je vous ai dit, négociation sur fond de conflit, pour pouvoir continuer à survivre au lieu de se détruire.
Mais la négociation ne pourra peut-être trouver un modus vivendi, des façons accommodantes de vivre ensemble, mais donc ne résoudra pas les conflits.
Ne résoudra pas les conflits, mais en même temps les données se modifient peu à peu, ce qui nous incite à observer de près les changements qui se produisent dans l'Église. Car au cours de ces négociations, on voit très bien comment des rapports arrivent peu à peu, des rapports nouveaux arrivent à s'instituer, comment des comportements nouveaux arrivent à se produire. Et c'est là où l'on peut effectivement parler de changement.
Je vais poser une question qui va vous apparaître déroutante, mais qui va nous ramener à notre sujet. Vous observez l'Église.
Oui.
Bon. Est-ce que vous êtes curé?
Non.
Vous n'êtes pas curé?
Non.
Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui pensent que vous êtes ecclésiastique.
Ah bon?
Oui.
Mmh.
Alors donc, vous êtes un sociologue laïque.
Et nous sommes tous, comment dire, mes collègues et moi, nous sommes au CNRS. Je suis fonctionnaire de la République française, laïque. Je suis fonctionnaire de la République française, laïque, payé par le gouvernement français comme un fonctionnaire pour observer l'Église catholique.
Voilà, vous me facilitez mon raccourci. Bon. Merci. Alors, pourquoi l'État français vous paie-t-il pour observer l'Église catholique? Eh bien, en quoi c'est utile à la société
française? Eh bien, non pas parce qu'il a besoin d'un informateur qui le renseignerait sur les menées secrètes et insidieuses du Vatican, mais tout simplement parce que, plus généralement, il a une politique globale de la recherche dans laquelle il y a ce qu'on appelle les sciences sociales, dans laquelle il y a ce qu'on appelle les sciences religieuses, et qu'une politique aujourd'hui générale implique que tous les créneaux soient occupés. J'ajouterais en plus que la tradition française, c'est que les sciences religieuses ont toujours tenu une place importante en France.
Donc, ce que vous faites est un travail purement scientifique qui n'a rien à voir avec les sciences théologiques.
Ah non. Oui. De ce point de vue-là, la distinction des champs du savoir est très nettement distincte, sans équivoque possible.
Bon, mais je reviens à ma question.
Oui.
Je comprends que vous me dites la science. Je veux bien, n'est-ce pas? La science, le savoir, la chose. Bon, très bien. Mais est-ce que ça a un intérêt, disons, pour un incroyant, un athée, de savoir comment ça fonctionne l'Église catholique? Quelles sont les crises qui sont vécues à l'intérieur de l'Église catholique? Quelles sont les issues? Quelles sont les parties qui se posent? Quel intérêt ça peut représenter à tel ou tel de vos collègues au CNRS, qui n'est pas, lui, un chrétien, qui n'est pas impliqué dans cette chose-là? Quel intérêt culturel ça peut avoir?
Écoutez, je vais vous répondre d'une manière qui va peut-être un peu vous dérouter. Quand je suis rentré au CNRS, moi, ma position catholique était connue de tous les grands patrons du CNRS. J'ai été soutenu essentiellement par des patrons laïcs, rationalistes et même souvent athées. Et c'était des hommes qui avaient une culture religieuse extraordinaire. Et des hommes qui pensaient que ces travaux que je faisais étaient importants. Bon. Aujourd'hui, j'ai des collègues de mon âge, ou plus jeunes, dont beaucoup sont de matrice catholique, et qui, dans l'ensemble, sont convaincus que je perds mon temps et que j'ai gâché ma vie. Ce qui montre qu'on ne peut pas dire les croyants trouvent de l'intérêt, les incroyants ne peuvent pas en trouver, vous avez des croyants qui en trouvent, vous avez des incroyants qui n'en trouvent pas, vous avez des croyants qui n'en... etc. On peut croiser toutes les positions.
Je vais reposer ma question.
Dites-moi.
Au fond, la question qu'un certain nombre de chrétiens se posent, pour tout un ensemble de raisons, c'est: le christianisme va-t-il mourir? Ils peuvent parfois se consoler avec des affirmations comme celle de Malraux qui dit « le 21e siècle sera religieux ou pas ». N'est-ce pas? Moi, je voudrais savoir, si c'est possible, non pas que vous fassiez la pitié, n'est-ce pas? Mais le sociologue que vous êtes, quand il voit l'évolution de ce groupe qui s'appelle les chrétiens, plus particulièrement en ce qui me concerne les catholiques, est-ce que le croyant peut penser que l'Église à laquelle il appartient a un avenir?
Et je vous répondrai d'abord que, en me fondant sur mon expérience d'homme, si vous voulez, qui a connu des générations antérieures, je dirais, le christianisme va-t-il mourir? C'est en France un débat séculaire, déjà. C'est-à-dire qu'il y a déjà un siècle, des milieux laïcs se disputaient sur ce problème. Et que certains affirmaient, il ne va pas mourir, il est déjà mort. Mmh. Bon, depuis un siècle, on a vu qu'il n'était pas mort. Hein? Et je vois qu'aujourd'hui, nous avons encore les mêmes réponses, et je dirais à la limite, aussi indifférentes que ce soit, à tous les travaux scientifiques qui existent. Mmh. Alors, pour ma part, moi j'ai toujours soutenu, à partir peut-être de mes convictions, mais je pense surtout, si vous voulez, être suffisamment objectif pour dire à partir de mes travaux que une grande affaire comme le christianisme, ça ne meurt pas comme ça. Et si vous me permettez une analogie, je dirais de la même manière, le communisme, ça ne meurt pas comme ça. Mmh. Hein? Toutes ces grandes formations historiques, hein? Et le communisme n'a qu'un siècle, le christianisme en a 20, de grandes formations comme ça ne meurent pas du jour au lendemain. Et elles se transforment, en tout cas elles vivent.
Oui. Vous êtes un observateur de l'institution. Vous avez vu ces crises depuis un siècle,
oui.
N'est-ce pas? Quels sont, à votre avis, les tournants que l'institution devrait prendre pour assurer à cette institution une certaine validité, une certaine crédibilité institutionnelle?
Eh bien là, je suis beaucoup plus démuni, si vous voulez, pour vous répondre, parce que je ne me suis jamais senti expert. Je n'ai jamais été consulté comme expert, et je ne me sens pas une âme d'expert.
Oui, mais alors je vais prendre la question autrement. Quand vous avez étudié la crise moderniste,
oui.
Le conflit d'Oisy,
oui.
de tous ses amis, parce qu'il n'y a pas que Oisy,
oui.
il y a Blondel, Raymond, etc., dont vous parlez dans vos livres, n'est-ce pas? Est-ce que vous n'avez pas eu la tentation de dire à certains moments, si on avait adopté cette solution-là, il y a cette voie qui était là, qui était ouverte, on ne l'a pas vue, on ne l'a pas prise, et c'est dommage parce que l'institution s'en serait trouvée mieux.
Est-ce que vous avez... Écoutez, c'est une très bonne question parce que justement, la longueur de mes travaux m'a permis de décoller un petit peu de mon observation et de réfléchir sur ce problème en ayant le temps de réfléchir. Or, c'est vrai que l'histoire, comme discipline historique, est une acquisition du siècle dernier. Bon. Et que par conséquent, le grand problème pour l'Église était d'acquérir la maîtrise aussi de cet instrument nouveau, de cette discipline nouvelle. Cette acquisition s'est faite à travers une crise redoutable, la crise moderniste. Je dirais même que de ce point de vue, la crise n'est pas terminée. La crise continue. En revanche, fallait-il adopter la position de Loisy ou des modernistes. Je dirais, c'était la position de leur temps. Hein? Et aujourd'hui, nous mesurons mieux la relativité de l'histoire. Nous la mesurons mieux...
De l'histoire comme science.
De l'histoire comme science. Mm-hmm. Hein? Nous la mesurons mieux, et en même temps, nous ne savons pas trop comment compléter cette relativité. Alors, à la fois, je pense qu'il est nécessaire de passer par l'expérience historique, qui est fondamentale. Et il faut que, si vous voulez... Il faut que l'Église passe par cette crise, par cette acquisition. Mais en même temps, une fois qu'elle aura passé par là, elle n'aura pas tout résolu, loin de là. Mmh. Hein? Et je pense que c'est ça que nous pouvons constater un petit peu partout. Essayez de réaliser la justice. Quand vous aurez réalisé la justice, vous n'aurez pas tout fait, il y aura d'autres problèmes.
Mmh. Ce qui me semble étonnant dans toute cette histoire... telle que j'ai pu,
oui,
la lire dans vos choses. Mais une des choses qui me semble étonnante, c'est que finalement, ces débats dont nous parlons sont des débats d'intellectuels, sont des débats bien souvent d'intellectuels cléricaux ou proches de clercs. Enfin, von Hugel,
oui,
était par exemple très proche des milieux cléricaux,
oui,
n'est-ce pas? Et qu'en réalité, ces débats ne touchent absolument pas le peuple. Et qu'au fond, l'Église est peut-être plus une institution populaire qu'une institution intellectuelle.
Bien, je dirais... Alors là je... D'abord, c'est exact, si vous voulez, mais c'est ce qui vous explique pourquoi l'Église invoque toujours le scandale des simples. Et elle se montre toujours beaucoup plus sensible au scandale des simples qu'au scandale des intellectuels, lesquels protestent en disant que l'Église méconnaît leur cas de conscience. C'est un peu vrai. Hein? Mais disons que relativement, proportionnellement, ça lui paraît moins important... précisément que ces masses populaires. Mais j'ajouterai un deuxième point. Pensez à tout l'art contemporain, le cubisme, le surréalisme. C'était l'affaire de quelques minorités, et même de minorités dans une minorité. Hein? Or, aujourd'hui, que voyons-nous? Mais le cubisme, mais ce sont nos immeubles. toutes nos villes sont cubistes. Hein? Le surréalisme a envahi notre vie quotidienne. C'est-à-dire que finalement, ces expériences de laboratoire sont aujourd'hui devenues le tissu de notre vie quotidienne. Et je pense que les recherches de ces savants, de ces grands savants catholiques, hein, ont fini par diffuser dans la culture moyenne du peuple chrétien.
Oui, mais par ailleurs, c'est parce qu'on ne sera pas forcé de dire que si l'Église au XIXe siècle a perdu les masses ouvrières, au XXe siècle, elle a définitivement perdu les intellectuels et les artistes. Qu'est-ce qu'on trouve actuellement comme production artistique valorisée par l'Église? Est-ce que tout le monde se plaint d'une liturgie qui est plate, d'une musique qui est insignifiante, d'un art sacré qui est inexistant? Est-ce que vous ne trouvez pas ça quand même, vous, une drôle de crise pour cette Église-là, de ne plus être emprégnant sur une sensibilité contemporaine?
Si, mais cela montre que le problème des rapports entre culture catholique et culture moderne est loin d'être résolu. Et que la situation entre ces deux cultures demeure conflictuelle. Et demeure conflictuelle pour des raisons de fond. C'est-à-dire qu'une culture catholique qui deviendrait moderne deviendrait culture socialiste, deviendrait culture libérale. Vous voyez, vous retrouvez toujours ces problèmes de fond. On vient toujours buter là-dessus.
Oui, oui. Hein?
Mais en revanche, bon, je suis frappé de voir le nombre de musiciens qui se réfèrent à une expérience religieuse. De musiciens contemporains. Le nombre de chanteurs aussi. Le nombre d'artistes. Hein. Je crois qu'il y aurait là toute une enquête à faire. Je l'évoque parce que, disons, cette enquête, je ne l'ai pas faite. Mais je pressens qu'elle serait à faire. Et qu'elle nous révélerait des choses étonnantes. Ceci dit, ça n'enlèverait rien, si vous voulez, au fait que la musique, dans son ensemble, est une musique qui obéit à de toutes autres inspirations, à de tout autres critères.
Émile Poulain, nous avons abordé certains des problèmes qui ont été les problèmes que vous avez discutés dans vos ouvrages. Oui. Mais vous m'avez dit que vous étiez entré un jour au CNRS pour y faire la sociologie religieuse. On aimerait quand même, l'auditeur et moi, connaître un peu mieux l'homme. J'aimerais vous demander, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager en sociologie religieuse?
Écoutez, moi, c'est extrêmement difficile à dire parce que, comme je vous le dis, nous sommes un groupe d'une quarantaine, cinquantaine de chercheurs qui travaillent sur ces questions de sociologie religieuse. Et je m'aperçois qu'il y a autour de moi des croyants, des incroyants, des hommes de droite, des hommes de gauche, hein, des hommes par conséquent extrêmement divers. Si bien que, sociologiquement, pour un sociologue, ma réponse n'aurait de sens que si je pouvais vous répondre d'une manière plus globale pour l'ensemble de mes collègues. Et je m'aperçois que la diversité est telle que je ne vois pas de motivation unique. On ne peut donc expliquer qu'à partir d'itinéraires individuels.
Hein? Oui. Est-ce qu'il nous est possible de le connaître, cet indice?
Mon itinéraire individuel, vous savez, oui. je suis de vieille famille lyonnaise, la Vendée catholique, ce qu'on appelait la petite Vendée catholique des Monts du Lyonnais. Je suis ensuite monté à Paris, comme on dit, avec ma famille. J'habitais Belleville, le 20e arrondissement, Belleville, Ménilmontant, des quartiers ouvriers. C'est-à-dire, alors là, le souvenir de ma jeunesse, si vous voulez, c'est que s'affrontaient catholiques et rouges, et que nous n'avons jamais vu de libéraux dans cet arrondissement. Il y avait symboliquement le mur de la rue Axo, c'était les otages de la commune, fusillés par la commune, les martyrs de la commune, et il y avait le mur des fédérés au Père-Lachaise, fusillés au lendemain de la commune en représailles par les Versaillais. Oui, nous vivions donc dans cet univers. Et personnellement, moi, j'ai toujours été fasciné par ces conflits, par cet univers. Hein? Et j'avoue que je ne regrette pas de lui avoir consacré mon attention. Vous voyez, on est catholique, mais on ne naît pas observateur du catholicisme. C'est un métier qui s'apprend.
Justement, qu'est-ce que ça implique, ce métier-là?
Beaucoup de distanciation. Beaucoup de distanciation à l'égard de l'objet pour éviter de se laisser prendre par sa subjectivité personnelle. Par ses préférences, par ses options. Vous savez, si je m'étais laissé aller à toutes mes inclinations, je ne sais pas où je serais allé, j'aurais pu raconter n'importe quoi, hein, en fonction de mes goûts personnels, dans tous ces conflits. Si je m'étais laissé guider par mes sympathies, par mes antipathies, je pense que c'est le contraire d'un travail scientifique. Et je pense que si Mon travail est actuellement reçu un petit peu dans tous les milieux, qu'ils soient de droite, de gauche, pour garder la terminologie, ou du centre. Hein. C'est-à-dire, c'est précisément parce que j'offre un travail dépassionné. Je dirais, c'est une ascèse personnelle, intellectuelle, spirituelle, croyez-moi, très exigeante.
J'imagine. Mais est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce qu'à certains moments, vous n'auriez pas envie d'être combatif? Souvent, en vous lisant, je trouve cette phrase, oui, cela peut apparaître, j'aurais pu, mais, n'est-ce pas, je pense qu'il faut m'en tenir à une conclusion plus modeste.
Mais je dirais...
Cette modestie, est-ce qu'elle ne vous embête pas, certainement?
Non, non, et pour deux, non, et pour deux raisons. Non, et pour deux raisons. La première, c'est que, pour moi, ce travail scientifique que j'ai fait, c'est véritablement l'apprentissage de la culture moderne. Je ne prétends pas à une culture moderne universelle, si vous voulez. Mais véritablement, c'est 40 années de ma vie où je suis devenu un homme moderne, apprenant la culture moderne, la vivant de l'intérieur. Et par conséquent, vivant cette confrontation avec le problème religieux. Hein? Et je dirais la deuxième raison, je vous l'ai dit, c'est que j'appartiens à une génération qui est entrée dans la vie adulte au moment où le monde entrait dans l'âge des négociations. Et par conséquent, se battre, c'est pour moi... une impasse.
Oui, mais vous m'avez dit que vous étiez croyant, que vous étiez chrétien. Est-ce que justement cette étude de cette institution
Je suis même chroniqueur à la croix.
Chroniqueur à la croix. Est-ce que cette, la critique de cette institution n'a pas quelque chose de... Enfin, n'a pas de quoi ébranler la foi?
Vous savez, je ne me suis jamais senti ébranlé. Je dirais qu'au contraire... travailler comme je le fais m'apparaît au contraire comme une des meilleures voies pour éviter les tempêtes intérieures auxquelles poussent nécessairement sympathie et antipathie.
Mais il reste quand même que cette distance,
oui.
Elle a dû être à certains moments donnés extrêmement douloureuse à porter.
Mais...
Et cette discrétion aussi.
Non, non, mais j'en suis convaincu, c'est extrêmement onéreux. Hein? Je vous l'ai dit, c'est le fruit... d'une discipline réfléchie, délibérée et, je vous le dis, onéreuse.
Émile Poulain, je vous remercie.